Hier matin, le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans. On en parle avec Monseigneur Cockerols, l'évêque auxiliaire de Bruxelles-Malines. Il répondait hier soir aux questions de Lucie Gilson.
Bonjour Jean Cockerols.
Bonjour.
Vous êtes l'archevêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka aujourd'hui. Alors, ce lundi matin, nous apprenions la mort du pape François, alors que les catholiques célèbrent le lundi de Pâques. Alors tout d'abord, Monseigneur, est-ce qu'on peut revenir un peu sur sa vie, son mandat, si je puis dire, pour incarner un peu le personnage aux yeux de nos auditeurs? Que retiendra-t-on de ce pape?
Ça dépend un peu de quel point de vue on se situe. C'est un personnage d'abord important pour les catholiques. Et comme responsable, comme chef de l'Église catholique, mais c'est aussi un homme public qui a marqué bien au-delà des limites de l'Église catholique. C'est un homme qui s'est fait connaître du monde entier et qui a eu un impact sur la vie de beaucoup de gens, la vie politique en particulier, au sens large, la vie de la cité.
On se rappelle du fait que c'était le pape des pauvres. Est-ce qu'on peut élaborer un peu là-dessus?
Oui, le pape des pauvres au sens où d'abord il est issu d'une famille peut-être pas pauvre, mais en tout cas très modeste en Argentine. C'est un homme qui a été touché dès le début de sa vie par les pauvres autour de lui. Jeune religieux, il a été envoyé auprès de pauvres pour les rencontrer, pour les aider. Donc ça, c'est une question qu'il a habité, je dirais, depuis toujours, et il a toujours voulu rester modeste, humble. La folie des grandeurs, ce n'était pas son truc.
Ses efforts concernent notamment des relations entre personnes du même sexe, où il a voulu s'attaquer également au fléau des scandales des abus sexuels, mais il s'est quand même heurté à une résistance interne, n'est-ce pas?
Alors, il faut essayer de bien comprendre où se situe la résistance. Je dirais que la principale résistance, c'est un homme qui veut être cohérent, qui veut être authentique, et ceux qui sont des demi-mesures, ça ne l'arrangeait pas du tout. Il a toujours été très radical, je dirais, dans ses options. Et donc la première résistance, c'est de la part de ceux qui pour lesquels la religion est un emballage cadeau, mais pas beaucoup plus. Il y a une résistance plus subtile, plus complexe à décrypter. C'est la résistance au sein de la hiérarchie de l'Église, de l'institution Église. Il a voulu une Église beaucoup plus co-responsable, où chacun est appelé à prendre des responsabilités et surtout à prendre la parole. Il est évêque de Rome, mais aussi évêque pour les pauvres. Une Église pour les pauvres, c'était les écouter, les respecter. Or, ceux qui détiennent l'autorité, parfois, aiment bien la garder, si je puis dire. Et c'est là qu'il y a eu aussi une résistance assez farouche. Et enfin, je dirais une troisième résistance, c'est de la part de ceux qui aiment bien que les choses se font dans l'ordre, selon les bonnes procédures, etc. Le pape François est un homme qui a été assez impulsif, qui a essayé de pousser ses idées à travers tout, si je puis dire, et ça n'a pas toujours plu à ceux qui aiment bien faire les choses pas à pas.
Alors, c'était également le premier pape latino-américain de l'histoire. Il était aussi jésuite. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière d'exercer son pontificat?
Alors, d'une part, latino-américain, et encore, en fait, plus précisément, argentin. Les latino-américains vous diront toujours que les argentins, c'est tout un peu particulier. C'est sûr que son passé d'argentin, mais issu d'une famille d'immigrés, particulièrement marqué son pontificat, la question de l'immigration, la question de la rencontre des cultures. Il aimait son pays d'origine, il chérissait même son côté argentin. Par ailleurs, comme vous disiez, attendez, quel était le deuxième point que je disais, l'argentin et... Attends, je perds le fil.
Jésuite.
Comment? Jésuite, oui, jésuite, excusez-moi. Jésuite, oui, très marqué. par sa formation de jésuite qu'il a vraiment choisi, vraiment à dessein, dans son souci d'être en communauté, de vivre avec d'autres, pas tout seul comme les prêtres diocésains, de vivre avec d'autres. Et il l'a marqué au Vatican quand il a choisi de pas aller habiter dans les appartements pontificaux, mais d'aller habiter à la maison Sainte-Marthe. C'était pour dire « j'aime être avec les autres ». Aussi, toute la place laissée au discernement. Les jésuites sont des, comme dans l'Église catholique, on les appelle souvent les champions du discernement. Prendre le temps de mettre les choses dans le bon ordre et de discerner et de voir Dieu en toute chose. Voir Dieu en toute chose, ça c'est bien propre à la spiritualité de Saint Ignace et ça le pape en était un grand témoin.
Alors, on avait déjà analysé à l'époque de son élection en 2013 que cela marquait un tournant dans l'Église catholique. C'est votre avis également aujourd'hui?
Oui, je crois que le pape François a fait prendre un tournant à l'Église, ou plutôt a invité les chrétiens en général, je parle même au-delà de l'Église catholique, à une foi beaucoup plus authentique, à une foi engagée, à une vraie démarche de croyant au sein du monde. Je pense que là, il s'est rendu compte que qu'il était grand temps de retourner à cet essentiel.
Alors, pour ma prochaine question, vous dites que il était le champion du vivre ensemble. Est-ce que le dialogue interconfessionnel, pas avec la communauté israélite, par exemple, de Belgique ou du monde, c'était également un combat cher pour lui?
Ce qui lui était cher, c'est la rencontre de l'autre et le respect de l'autre et de construire des ponts. Vous savez, on l'appelle souvent le pape le pontife suprême. Pontifex, c'est construire des ponts. Déjà, quand il était archevêque de Buenos Aires en Argentine, eh bien, ses meilleurs amis, c'était le grand rabbin d'Argentine, c'était quel ou tel prédicateur protestant. Il aimait les gens au-delà de leurs appartenances particulières. Ce n'était peut-être pas un homme qui avait une vue fondamentale sur les rencontres interconfessionnelles comme l'ont été les papes précédents, Benoît XVI et avant lui Jean-Paul II ont été peut-être beaucoup plus proactifs avec des gens autour d'eux dans ces domaines. Mais la rencontre de l'autre, et en particulier le peuple juif, ça lui tenait à cœur certainement.
Est-ce qu'Israël perd aussi un allié aujourd'hui?
Ah, ça c'est une question très délicate parce qu'il a bien souhaité distinguer l'État d'Israël et le monde juif. Très curieusement, hier jour de Pâques, qui très curieusement cette année-ci tombait non seulement sur la même date que toutes les églises orthodoxes, mais aussi avec la fin de 8 jours de Pessah. C'est très curieux que son chemin terrestre s'accomplisse dans ce contexte-là. Hier encore, il a fait lire par un de ses adjoints son message de Pâques, dans lequel, d'une part, il soulignait que le climat d'antisémitisme croissant dans le monde entier le préoccupait, il l'a dit explicitement, et par ailleurs, c'était encore et toujours un appel à tous les belligérants, et en particulier ce qui se passe en Israël aujourd'hui, d'inviter au cessez-le-feu, la libération des otages, il l'a dit explicitement, et aussi à ce que la population de la bande de Gaza qui sont affamées puisse avoir aussi un avenir de paix.
Et enfin, Monseigneur, ma dernière question, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce qu'il y a un nom pour son successeur qui circule déjà?
Ça m'étonnerait. De toute façon, vous connaissez cet adage qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Autrement dit, tout ce qu'on pourrait imaginer comme pari sur un tel ou sur un tel, je crois que c'est peine perdue. C'était déjà peine perdue pour l'élection du pape François, puisque personne n'avait, entre guillemets, parié sur lui. Mais ce sera encore d'autant plus un peu... Aujourd'hui, c'est vraiment une devinette impossible à résoudre. Les électeurs du pape, tous les cardinaux qui ont moins de 80 ans, mais le pape François s'est arrangé pour en nommer des cardinaux dans le monde entier. Je pense que leur première tâche sera d'apprendre à se connaître, à se parler, à se rencontrer, et puis l'Esprit de Dieu fera le reste.
Est-ce que ça veut dire que l'Église va entrer dans une crise aujourd'hui?
Non. Enfin, sauf si vous utilisez le mot « crise » de façon positive. Le mot « crisis » en grec veut dire « discernement ». Ce sera effectivement un fameux discernement. Mais ce n'est pas la disparition d'un pape qui amène en soi une crise problématique. Non, tout cela est codifié, et donc laissons faire. Les semaines qui viennent, les gens responsables prendront leurs responsabilités, et je suis sûr que d'ici un mois ou six semaines, nous aurons un nouveau pape, et là où je suis un peu curieux, c'est de savoir le nom qu'il prendra.
Eh bien, nous aussi, nous sommes curieux. Merci beaucoup, Jean Coquerolles, archevêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïca, et très bonne journée, joyeuse Pâques.
Merci à vous aussi.